Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. La publication des derniers chiffres de la natalité en France n'a pas laissé de place au doute. Comme le reste de l'Europe, la France vieillit, fait moins d'enfants. Alors, faut-il s'en inquiéter? Quelle peut être la réponse? Les politiques natalistes, le réarmement démographique, comme le veut le président de la République, le choix de l'immigration pour faire face au manque de bras, de jeunesse, la démographie en tout cas, est une bombe humaine au cœur de tous les enjeux, enjeux écologiques, politiques, culturels. Nous sommes allés en Inde, en Chine, au cœur de l'Europe, dans les campagnes françaises. Un documentaire d'Alain Pierrot et Coralie Salvoche, suivi d'une interview en direct avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et un débat avec nos experts. La bombe humaine, c'est maintenant.
Ta couche est bien remplie.
Jiafu, 35 ans, est un héros de la Chine communiste. Son exploit n'est pourtant ni militaire, ni politique. Avec sa femme, Sui, 25 ans, le couple vient de donner naissance à leur troisième enfant.
Regarde, son cordon ombilical va déjà tomber.
Un garçon, prénommé Hong Xing. Une révolution dans un pays qui a prôné l'enfant unique pendant 36 ans.
Nous, au départ, on était la génération du contrôle des naissances. Personne n'osait faire un troisième enfant à l'époque. C'était même très grave, un troisième bébé. Les agents du planning familial venaient et vérifiaient tous les jours. Ils pouvaient mettre des amendes ou saisir nos biens.
Autrefois, ils auraient été sanctionnés. Aujourd'hui, le couple est récompensé avec une prime de 3000 euros. Si la Chine a changé de politique, c'est parce que dans l'empire du milieu, comme dans d'autres pays du globe, les autorités font face à un nouveau phénomène qui pourrait faire vaciller l'humanité tout entière. Jamais dans son histoire, la planète n'avait compté autant de personnes âgées.
La démographie est revenue au centre du jeu économique, politique, donc géopolitique.
Vieillissement d'un côté.
On est dans un monde complètement dépassé. Et il va y avoir des drames.
Rajeunissement de l'autre.
Voilà les bébés. L'Occident doit comprendre qu'on doit tout faire ici pour la jeunesse future.
Le monde assiste à un grand basculement, avec son lot de drames et de tensions.
When India grows, the whole world grows.
De plus en plus de gens perdront leur maison, leurs revenus et seront forcés de migrer.
Le problème de la démographie, c'est que pour les politiques, c'est des nombres. Alors qu'en fait, la réalité, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants.
Mayday, mayday, people in the water.
La migration est un acte douloureux, tragique. On voit ces gens qui sont prêts à risquer leur vie pour un avenir meilleur.
Quels pays seront prêts à jouer la carte de l'immigration face au vieillissement de leur population?
Non, l'immigration massive!
On peut vociférer tant qu'on veut. Lorsqu'on arrive aux responsabilités, il y a de coup un choc de réalité.
En Europe, des nations se déchirent.
On va te crever, pourriture.
Le slogan qu'on entend dans les meetings du RN, c'est « on est chez nous ». On est chez nous, ça veut dire qu'on veut que la France reste la France.
En Asie, en Afrique et sur le vieux continent, enquête sur les nouveaux visages de la planète.
On n'a pas anticipé ce choc démographique en France.
On aurait dû et on n'a pas fait.
Si on fait des enfants, c'est qu'on pense que leur avenir a du sens. Donc déjà, si on ne fait pas de jeunes, ça signifie « je ne crois pas en l'avenir ».
Alors, plus d'immigration ou plus de naissances?
Pour affronter ce défi démographique, nous aurons besoin de plusieurs mesures. Et l'immigration en fait partie.
À quoi ressemble un continent qui vieillit? En France, toutes les 5 minutes, 3 personnes franchissent la barre des 65 ans.
Jamais dans l'histoire de notre pays, la population des plus de 65 ans a pesé autant. On est à peu près aujourd'hui à 15% de plus de 65 ans, on sera bientôt à 20%. C'est unique dans l'histoire de la démographie française.
La démographie fait partie, avec la révolution technologique et le changement climatique, des trois grands bouleversements de ce siècle. La pyramide des âges n'est plus du tout pyramidale. Hein. On dit encore pyramide des âges, mais on devrait dire le cylindre ou la pyramide inversée. En fait, aujourd'hui, la Marianne, si elle devait ressembler à la France, au miroir démographique français, elle aurait plutôt les cheveux blancs et elle serait plutôt dans ses 50 ans.
Autre indicateur qui diminue depuis le début des années 2010, depuis 2012-2013, c'est le nombre total de naissances. Et puis, on ne cesse de voir augmenter l'âge moyen du premier enfant. Nous sommes entrés dans un espèce d'hiver démographique.
En Dordogne, les maisons de retraite se remplissent déjà plus vite que les écoles. Mais l'État s'est-il vraiment préparé à cette nouvelle pyramide des âges ? Près de Sarlat, des retraités comme Bernadette Benchek, 77 ans, Nicole Marty, 75 ans, alertent les autorités depuis une décennie sur cette révolution lente et silencieuse, profonde et irréversible.
Il faudrait aller un petit peu dans le périmètre de Belvès.
Oui, de Villefranche-du-Périgord.
Villefranche-du-Périgord et Belvès.
Avec leur association, elles recueillent les témoignages de ces personnes âgées, isolées, en mal de service public.
Depuis 9 mois, on va dans les toutes petites communes. Mais vraiment les toutes petites. On demande à monsieur le maire une salle. On lui dit on vient une heure pour discuter avec les habitants de leurs problèmes, ce qui leur manque, comment...
Les personnes de plus de 60 ans sont majoritaires dans le département. Donc, il va bien falloir s'occuper de cette population vieillissante.
C'est fondamental pour nous que tous les services publics existent. Parce que, par exemple, nous, ça m'embête, mais on a acheté des journaux pour qu'on ait au moins 2 visites de la poste par semaine. Et que si jamais il nous arrive un pépin, on ait quelqu'un qui puisse donner l'alerte. Ça paraît fou, hein.
Dans certains territoires ruraux, on a une superposition de difficultés qui s'apparente à une double peine. C'est-à-dire qu'on a un vieillissement accéléré de la population, mais ce sont aussi des territoires qui sont peu densément peuplés, et donc où le maillage de services publics et de services tout court est moins dense qu'ailleurs, et la situation devient très préoccupante.
La dépendance, c'est le nouveau grand risque. On n'a jamais été confronté à des millions de personnes qui passent le quatrième âge. Et tout ça, aujourd'hui, ça n'a pas été préparé et donc on le ressent.
Actuellement, les familles sont encore...
S'entraident.
Il y a des cousins, il y a des filleuls. Dans 10-20 ans, il n'y aura plus la même structuration et les choses ne seront...
Le même maillage.
Maillage humain.
Voilà.
Là.
Ce lundi après-midi, la petite bande de retraités est venue mettre la pression sur le député écologiste de la 4e circonscription de Dordogne, Sébastien Peytavi.
À Francheville, il y a des gros problèmes de prise en charge. Moi, j'ai posé la question d'un service public de l'autonomie et de la dépendance dans le département. Et là, on s'aperçoit que nos élus locaux n'ont aucune réflexion sur ce sujet.
Nous sommes atterrés par toutes ces EHPAD où il n'y a plus de médecins référents.
Et qui auraient dû fermer.
Et qui auraient dû fermer faute de médecins.
Pendant près de 2 heures, l'élu va écouter les griefs, les anecdotes, les colères, symboles de l'impréparation de l'État face au vieillissement de ses propres citoyens.
Personne n'a parlé du remplacement.
On est dans un monde qui, on va dire, avec un modèle qui est complètement dépassé, qui est incapable de répondre à la situation d'aujourd'hui et au monde qui vient. Et il s'accroche à ça. Il y a un problème, il va y avoir un problème, et il va y avoir des drames. C'est-à-dire que là, on rentre dans une période où il va y avoir des drames.
Nous ne sommes que des citoyens, mais nous voulons que tous soient soignés parfaitement. Ça tient un fil, mais ce fil, on ne lâchera pas.
En France, vous avez un quart des départements, un tiers même, qui ont déjà passé leur pic de population. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de décroître démographiquement. Ça va s'accélérer. D'ici à 2050, la moitié des départements français vont être en décroissance démographique.
Cette année 2023, c'est l'année où, brutalement, nous nous rendons compte que la natalité s'effondre en France. Et là, maintenant, c'est plus une question que l'on peut reporter sur le futur, c'est une question immédiate. Les populations confrontées à ces problèmes-là, non seulement elles ont raison d'être en colère, d'avoir le sentiment que, en effet, la logique stratégique n'est absolument pas mise à plat, mais qu'elles sont probablement les avant-gardes.
Ailleurs en Europe, la fatalité l'a déjà emporté. De l'autre côté des Alpes, en Italie, les experts n'hésitent plus à parler d'un peuple en voie d'extinction. C'est le pays le plus âgé d'Europe et le renouvellement des générations est au point mort. La moitié des Italiennes n'ont pas d'enfants ou n'en ont qu'un seul. À une heure de Turin, Ribordone est le visage de l'Italie de demain. Un village musée, mais sans visiteurs. Le maire Guido Bellardo, 79 ans, fait figure de conservateur des lieux.
Ce village, il y a 100 ans, comptait 2000 habitants. Aujourd'hui, il n'en reste que 50. Il y avait 4 magasins ici. Maintenant, il n'en reste plus qu'un. Il y avait 2 bureaux de tabac. Il n'y en a plus. Pendant longtemps, il n'y avait plus de bureaux de poste. Maintenant, il ouvre tous les 3 jours. Et les services comme le médecin, il n'y en a plus.
À plus de 1400 mètres d'altitude, les derniers habitants regardent désormais le temps défiler.
Bonjour. Mon ami.
Le village de Ribordone est célèbre dans tout le pays parce que la moyenne d'âge des habitants y est tout simplement la plus élevée du pays.
73 ans. 74.
66.
C'est notre petit enfant.
Je suis né ici, dans le hameau de Poggio. Le dernier à être né à Poggio, en 1957. Après moi, plus personne n'est né ici.
C'est le village le plus âgé d'Italie, d'après les statistiques. La moyenne d'âge pondérée, c'est 61,2 ans. Bon, nous ne sommes pas les plus âgés, plutôt les plus expérimentés. Nous avons vécu longtemps, mais nous allons bien.
Ce phénomène, certains experts l'appellent en Italie le suicide démographique. Concrètement, faute de naissance, ces Italiens sont les derniers témoins de grandes familles appelées désormais à disparaître.
Maman, mon frère Gian Domenico, il est décédé. Ma très sainte famille. Je suis ici, là. J'ai 2 enfants. Wolfgango et Paola. Wolfgango a 47 ans, Paola a 49 ans. Ils ne viendront certainement pas ici, même pas pour les vacances. Alors je pense que quand je ne serai plus là, cette maison sera fermée et probablement que dans 200 ans, elle s'effondrera.
Force est de constater que l'Italie n'arrive plus à croître aujourd'hui et qu'elle va devoir faire des choix pour compenser cette faiblesse-là qui est ressentie dans les entreprises, qui est ressentie dans les villages, qui est ressentie par l'administration. Du coup, ça pose des questions sociétales très fortes. D'ailleurs, on voit que ça fait beaucoup de débats en Italie sur l'immigration.
En Italie, on voit désormais se multiplier au nord, au sud de la péninsule, ces villages fantômes, vidés de leurs habitants. Ribordone est malheureusement appelé à devenir l'un d'entre eux.
En France, on n'est qu'au début de cette tendance-là. On commence tout doucement à voir le problème arriver. Le sujet, c'est qu'en fait, une fois que le problème est devant vous, c'est presque trop tard. Parce que la démographie, vous ne l'inversez pas du jour au lendemain par un décret ministériel.
La planète est à l'aube d'un grand basculement. Car de l'autre côté de la Méditerranée, l'Afrique connaît une explosion de sa jeunesse.
Il est impossible de comprendre ou même d'expliquer le monde aujourd'hui sans avoir une idée de où se trouve la jeunesse du monde, comment se déplace-t-elle, comment communique-t-elle et comment s'organise-t-elle.
Au Niger, on peine encore à prendre la mesure de ces chiffres vertigineux. Ici, la moitié de la population a moins de 14 ans. La maternité Issaka Gazobi est le symbole de cette révolution. 7 jours sur 7, la cour de l'hôpital ne désemplit jamais.
Ça va ? Elle va dans quelle chambre ?
En obstétrique.
Ok.
Certaines femmes ont parfois fait 2 jours de route depuis la campagne éloignée pour accoucher dans ce centre de référence, le seul habilité à faire des césariennes.
Ah, ici il y a une césarienne qui est en cours, non? Ah, ici aussi le bloc est occupé. Les deux lits libres, on peut transférer? Merci.
Chaque jour, près d'une centaine de naissances ont lieu dans ce centre.
Débordé, très débordé. On a l'impression qu'il n'y a que ce centre-là qui fonctionne.
Au bloc opératoire, le docteur Issoufou gère les accouchements à risque, comme celui de Chiara, 43 ans.
Aujourd'hui, c'est sa 8e grossesse. Si on tient compte du taux de natalité chez une femme au Niger, c'est 7,2. Donc, en tout cas, je pense que le compte est bon. C'est pas frais dans la salle-là.
Le chirurgien procédera le même jour à 5 autres césariennes. Dans une chaleur accablante, il est payé 600 euros par mois.
La chaleur.
Chiara va accoucher aujourd'hui d'un petit garçon appelé Suleiman.
Allez, ok. Voilà les bébés. On a fini, ça s'est bien passé. Là, on va aller voir le nouveau-né. Voilà. Donc, il est là en pleine forme.
Le Niger compte aujourd'hui 25 millions d'habitants. Avec ce taux de natalité record, la population du pays est appelée à doubler d'ici seulement 15 ans.
Ah, les chiffres sont impressionnants. Et il est certain que dans l'équilibre géopolitique des différents pays, ça va être aussi un élément fondamental. Et que demain, bien entendu, les pays qui ont la population la plus jeune auront aussi un avantage économique certain. Il y a là une jeunesse formidable et on se demande qu'est-ce qu'on va en faire, quelles sont les opportunités qu'on va lui offrir et comment est-ce que cette jeunesse va prospérer.
Cette 8e naissance, ce sera la dernière pour Chiara. Avec son mari, ils ont choisi de procéder à une ligature des trompes, une stérilisation irréversible.
Je suis contente d'avoir fait cette opération. Cette grossesse m'a vraiment fatiguée. J'ai eu beaucoup de soucis de santé. Dieu m'a déjà donné 8 enfants. C'est déjà très bien. Donc je ne regrette pas.
Dans l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, le chef des lieux, le professeur Modi, est le premier à s'inquiéter de l'avenir de cette jeunesse.
L'Occident doit comprendre qu'on doit tout faire ici pour la jeunesse future. La santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage. Je ne veux pas qu'ils partent par le Sahara. Je ne veux pas qu'ils partent là-bas aussi, mourir dans la mer, non. Et puis, pour cela, il faut les éduquer. C'est ça la vérité. Il faut les soigner. Il faut leur donner aussi un job. Tu peux pas
garder... Effectivement, ça pose un défi immense à des pays qui ont des PIB très petits. Ce qu'on peut imaginer, c'est un partage.
C'est-à-dire, on peut imaginer qu'une partie de cette population, de cette jeunesse africaine, qui a besoin d'avenir, puisse venir combler chez nous des manques de bras, de main-d'œuvre, mais aussi de main-d'œuvre bien formée, et on peut s'organiser, pendant qu'eux, en partenariat, ont besoin absolument de nos capitaux de manière à pouvoir mieux harmonieusement développer leur économie. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Chine, exactement ce qui s'est passé pour l'Inde. On a été capable, en 30 ans, de faire croître la Chine, sortir la Chine de la pauvreté, et c'est pas parce que la Chine avait les moyens, c'est parce que le monde entier est venu investir en Chine.
Rien qu'au Niger, on annonce en 2100 le chiffre astronomique de 166 millions d'habitants. C'est 7 fois plus qu'aujourd'hui.
Combien de fois est-ce que je n'entends pas cet argument de dire « Oui, mais la solution, c'est le contrôle de la population. Le problème, c'est qu'il y a trop d'enfants dans les pays africains. » Soyons clairs. Quelle légitimité aurions-nous à aller dire à des populations d'autres pays « S'il vous plaît, faites moins d'enfants parce que ça va conduire à un problème pour les ressources ou parce que ça va conduire à des enjeux d'immigration. »
Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Alors c'est le haut-commissaire au plan que nous interrogeons aujourd'hui. On vient de voir dans ce documentaire des Français, des retraités, qui nous expliquent et qui nous racontent que rien n'a été préparé en France pour faire face au vieillissement de la population. Quand vous entendez ça, en sachant que vous avez été aux responsabilités vous-même, est-ce que vous vous dites quand même ils n'ont pas tort? On n'a pas anticipé ce choc démographique en France.
La démographie, c'est la science la plus exacte qui existe. Vous dites, nous sommes ici au plan.
Oui, c'est votre rôle ici d'anticiper sur ce qui va se passer.
Le plan, j'ai voulu sa renaissance, j'ai beaucoup travaillé et plaidé pour sa renaissance, parce que j'étais absolument frappé de ce que, en France, depuis 20 ans ou presque, qu'il avait été supprimé, on faisait de la politique... Alors qu'il y a certains pays du monde qui disent « on fait de la politique à 30 ans », et je disais « nous, on fait de la politique à 30 jours ». Et donc, de ce point de vue-là, oui, on aurait dû, et on n'a pas fait.
Vous disiez tout à l'heure « la démographie, c'est une science exacte ». On sait ce qui nous attend. Typiquement, sur le grand âge, sur le vieillissement, sur les équipements, est-ce que là, en ce moment, on anticipe ce qui nous attend, c'est-à-dire ce vieillissement annoncé de la population française ?
Non, pas bien. Je vous donne le chiffre à peu près. Oui. Actuellement, il y a 4 millions de personnes entre 75 et 80 ans. Et on va passer en 2030 à 6 millions. Et ceux-là vont rester, ce qui fait qu'après, c'est les plus de 85 et 90 ans qui vont exploser proportionnellement. Donc une augmentation de plus de 50%.
Et si on fait rien ? Et si personne ne vous écoute ? Et que ces générations-là ne sont pas accompagnées dans ce grand âge, il se passerait quoi ?
Il se passera que nous vivrons des situations insupportables, des gens qui seront mal traités, mal pris en charge, et que simplement on ne peut pas l'accepter, et eux-mêmes vont imposer par leur nombre qu'on s'en occupe. Parce que le basculement démographique, c'est aussi un basculement électoral.
Est-ce qu'on n'a pas vécu sur une illusion, François Bayrou, l'illusion qu'il y avait une forme d'exception française et qu'en France, on faisait des bébés, donc au fond, ces affaires de démographie ne nous concernaient pas ?
Vous pointez du doigt quelque chose qui est pour moi extrêmement important, qui est même la clé du modèle social français. En France, c'est pas le chacun pour soi, mais le tous pour un. C'est-à-dire, c'est la solidarité nationale qui prend en charge ces différents services qui sont en France publics. Mais ça ne marche que si vous avez une base de contributeurs.
C'est-à-dire s'il y a des jeunes qui payent pour les retraites des vieux.
C'est-à-dire s'il y a des jeunes qui payent pour les retraites, s'il y a des contribuables qui paient pour les services publics. Et nous en sommes menacés aujourd'hui parce que si la pyramide ne retrouve pas une base large, nous ne pourrons pas soutenir le modèle social.
C'est quand ça, la bascule, s'il ne se passe rien ?
Moi, je pense que si nous ne nous redressons pas d'ici à la fin de la décennie, d'ici à 2030, on aura de très graves ennuis.
Vous dites aux jeunes Français, faites des enfants.
Ouais, je ne dis pas ça comme ça parce que c'est ridicule. S'ils m'entendent de dire ça,
ils vont dire de quoi tu te mêles, François Bayrou.
Ils hausseront les épaules.
Il y a une autre option. La solution serait, puisqu'on fait moins d'enfants, puisque d'autres pays en font davantage que nous, ouvrons en quelque sorte les portes de l'immigration et faisons rentrer sur nos territoires alors, vieillissants une population jeune et formée.
Alors, là, je vais vous répondre non pas comme commissaire au plan, parce que c'est une option
aussi
politique, personnelle. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Je ne crois pas que les problèmes de démographie se règlent en faisant venir des générations entières. Parce que ça crée des tensions à l'intérieur des sociétés culturelles, en particulier. Mmh. Ces tensions culturelles sont un terrible frein pour un pays, un terrible, on dit, une déstabilisation.
Dernière question, justement. Quand vous voyez la Chine, l'Inde, qui sont aujourd'hui des grandes puissances économiques, mais aussi démographiques, est-ce que la force d'une puissance aujourd'hui, comme par le passé, ça reste sa démographie ?
Et c'est exactement ce que va être le chassé-croisé entre l'Inde et la Chine. Dans quelques décennies, l'Inde aura 500 millions d'habitants de plus que la Chine. Et évidemment, ça a des traductions géopolitiques. Et évidemment, les ingénieurs, les chercheurs, ils sont plus soutenus avec la perspective d'un pays jeune et nombreux qu'avec la perspective de pays vieillissants et déclinants.
Merci beaucoup, François Bayrou. Merci à vous.
À vous.
Un leader mondial a compris avant les autres que la jeunesse d'un pays serait au XXIe siècle la richesse des grandes puissances. Dans tous ses discours, Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, aime se vanter de la bonne santé de sa population.
India is the fifth largest economy. And India will be the third largest economy soon. When India grows, the whole world grows.
Elle a devant elle, on va dire, un siècle de croissance démographique raisonnable. Elle est déjà devenue le premier pays le plus peuplé de la Terre. Elle a dépassé la Chine, qui n'a pas aimé d'ailleurs. Elle va passer à 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, peut-être atteindre en 2100 les 2 milliards d'habitants. On n'est pas sûr.
La jeunesse de son pays, Narendra Modi, en a fait un atout économique. L'Inde se positionne officiellement comme le nouveau réservoir de main-d'œuvre de la planète. Ici, plus de 65% des habitants ont moins de 30 ans.
En matière économique, on va dire ce qui est rare et cher. Donc nous sommes effectivement dans une situation où la jeunesse se raréfie. Et donc par conséquent, nous avons une sorte de compétition mondiale pour attirer la jeunesse ou parfois essayer de la recréer.
Là où se trouve la jeunesse du monde, se trouve l'avenir du monde. L'avenir du monde se trouve donc, selon ma théorie, en Afrique, un peu en Amérique latine aussi, mais surtout en Inde.
Au pays de Gandhi, la démographie a toujours été une passion politique. Ashta Ahora, 23 ans, a longtemps été le visage de cette Inde conquérante. À sa naissance, la jeune femme a été désignée comme la milliardième indienne. Une arrivée fêtée comme un événement national devant les caméras du pays.
La milliardième Ashta, la milliardième indienne. Je suis heureuse car chez moi, j'ai le milliardième bébé. C'est un cadeau de Dieu. Elle aurait pu naître ailleurs, mais grâce à la bonté de Dieu, elle est née dans mon foyer.
Mais rapidement, le milliardième bébé retombe dans l'anonymat.
Ils ont promis beaucoup de choses. Ils ont promis que les transports seraient gratuits, que ces soins de santé seraient gratuits, que l'école serait gratuite, mais rien n'est arrivé.
Peu à peu, si aujourd'hui on analyse les choses avec un peu de recul et en regardant ce qui s'est passé à ma naissance, il apparaît que le gouvernement m'a simplement fait connaître pour atteindre un objectif politique.
Ashta, autrefois symbole de l'Inde toute puissante, devient très vite l'incarnation d'une jeunesse noyée par la loi du nombre. Comme si l'Inde avait perdu le contrôle. Depuis la naissance d'Ashta, la population a gagné presque 400 millions d'habitants. Et d'ici à 2050, le pays devrait encore enregistrer 400 millions de nouveau-nés.
À l'heure actuelle, je suis très inquiète pour l'avenir. Je n'ai pas envie que quelqu'un soit étiqueté comme le 2 milliardième indien. Je ne veux plus qu'on fasse de promesses en l'air, car il ne s'est jamais rien passé pour moi.
L'Inde a quand même quelques atouts incroyables. L'Inde est le pays au monde qui a le plus investi pendant ces 50 dernières années dans le système scolaire. Les jeunes indiens sont parmi les mieux formés au monde. Toute cette jeunesse-là a besoin d'une réponse immédiate à un problème qui prendra en fait 10 ou 20 ans à être résolu.
Et ce problème, la face cachée du mirage économique indien, c'est tout simplement le chômage des jeunes diplômés. Il monte à 43% pour les moins de 25 ans. Illustration avec Sushan Petty, 21 ans, diplômé en management. Aujourd'hui, il va peut-être jouer son avenir. Il a rendez-vous au Salon pour l'emploi de son université, un événement reconnu dans tout le pays.
Salut, comment ça va? C'est bien de te voir.
C'est la deuxième année que Sushan y participe.
T'as vu la file? Il y a beaucoup trop de monde. Je suis un peu stressé, c'est la première fois que je passe des entretiens. On a très peu d'expérience dans ce domaine.
Face à eux, plus de 10 000 concurrents ont fait le déplacement pour les deux jours du forum. Sushan et son ami vont enchaîner les entretiens. Jusqu'à 10 par jour, pendant deux jours, pour des salaires de 150 à 300 euros par mois en moyenne.
Il passe deuxième, je suis troisième. Donc là, j'attends. J'ai vraiment hâte de voir si je serai sélectionné parmi tous les candidats, car je suis sûr que je suis meilleur que les autres. Cette entreprise est très intéressante. Elle offre de très bons salaires. Je suis capable de manager une équipe. Si vous m'en donnez la responsabilité, je saurai la diriger. Et une autre bonne raison, c'est que personne ne m'a encore sélectionné.
Quand vous avez 20 ans en Inde, vous fichez de savoir ce qui va se passer dans 20-30 ans. Vous avez envie d'avoir une bonne vie tout de suite. Or là, le développement de l'Inde va demander un effort de l'Inde sur elle-même extrêmement important pendant des dizaines d'années. Un effort de croissance, voire de surcroissance, pour répondre à l'arrivée sur ce marché du travail de millions de nouveaux jeunes Indiens. Et je vous parle d'un pays qui croît quand même de 5 à 10% par an. Hein. Le retard accumulé est tellement important qu'elle a besoin de ces 10%, ne serait-ce que pour remettre en partie à niveau ses infrastructures, son économie, avant de penser à pouvoir servir sa population de jeunes.
Rien n'a été planifié en Inde pour faire face à l'explosion de la population. New Delhi gagne ainsi chaque année presque 1 million d'habitants.
Je pense que beaucoup d'habitants réalisent effectivement que cette croissance démographique très soutenue a des conséquences environnementales qu'il va falloir gérer. Et que, bien souvent, en termes de système d'assainissement des eaux usées, en termes de système d'égouttage, en termes de système de recyclage, de collecte des déchets, on n'avait pas du tout anticipé cette question de la hausse de la population. L'idée de vouloir, en quelque sorte, instrumentaliser la démographie à des fins politiques, évidemment, elle a un prix et c'est un impact environnemental qui est évidemment conséquent en Inde.
Symbole de ce vertige des chiffres, ces montagnes de déchets qui culminent dans la ville à près de 80 mètres. Et que la légende a voulu à un moment plus haute que le Taj Mahal. Vikrant Tangat est un militant écologiste qui lutte depuis 2017 pour la disparition de ce monstre de déchets. En vain.
Ce sont des chiffonniers. Ils ramassent tous les déchets. Ils gagnent chaque jour un peu d'argent avec ça. C'est tout simplement leur travail. Il y a à peu près 20 camions qui viennent ici tous les jours. Là, le niveau de pollution est très élevé parce qu'ils viennent tout juste de décharger. Donc c'est vraiment très difficile pour nous de rester ici, mais eux, ils travaillent ici tous les jours. Même les enfants sont avec eux. C'est un problème grave, car tout cela a un impact négatif sur la santé des enfants.
C'est du plastique, je le ramasse, et après je le vends.
Et tu as quel âge ?
11 ans.
Je vais prendre ça en photo. C'est pour mes archives.
Il est certain que la démographie peut être une bombe, et peut-être même la plus dangereuse. Elle exerce une pression très forte sur la nature et sur les ressources.
On perçoit de plus en plus le fait que notre modèle est dans une impasse. Il est évident, quand on est dans les pays à très forte démographie, on se rend compte que là, en réalité, l'impasse, elle est très très proche, et que le mur, on en est vraiment très très proche. Et donc là, dans ces pays, on a cette perception que non, il n'y a pas de doute, le modèle actuel, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut inventer quelque chose d'autre.
D'abord, ce n'est pas à l'Occident de donner des leçons de développement à l'Inde ou aux pays en développement. On va peut-être se calmer là-dessus. Déjà qu'on avait au 19e siècle tenté de leur apporter les lumières de la civilisation, ça s'est pas bien passé, ça s'appelle le colonialisme. On ne va pas recommencer aujourd'hui à leur dire comment il faut se développer. C'est d'ailleurs en grande partie ce qu'ils nous disent. Ils disent, oh là là, vous vous calmez, c'est vous qui avez pollué la planète pendant 150 ans, laissez-nous peut-être trouver des solutions à notre mesure.
Pour l'instant, faute d'investissement, le pays est en train de perdre, paradoxalement, une partie de sa jeunesse. Notamment dans les campagnes indiennes. Kiran, 28 ans, a 3 enfants. Elle a décidé de se faire stériliser. Une méthode radicale, mais nécessaire, selon elle, pour la survie de sa famille.
La stérilisation, c'est vraiment ce que je souhaite. Si j'y parviens, alors notre famille aura assez pour que nous puissions manger, que les enfants grandissent heureux, dans des bonnes conditions, et qu'ils puissent apprendre à lire et à écrire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Là, ça suffit. Je vais me faire stériliser, mon mari sera heureux, mes enfants seront heureux, je serai heureuse aussi. Toute notre famille sera heureuse. Viens, Lalita, on y va.
Pour se rendre à la clinique, Kiran est accompagnée par une amie, Lalita, qui elle aussi a décidé de se faire stériliser.
Elle va le faire aussi.
Tu as combien d'enfants, toi ?
4.
C'est la bonne solution.
En Inde, une aide de 1400 roupies, environ 15 euros, est versée par le gouvernement à chaque femme qui accepte cette stérilisation.
Non, je n'ai pas peur. Mais c'est ce que je dis, on ne le fait pas pour l'argent. La famille qu'on a nous suffit.
Dans le pays, plus d'une femme sur trois choisit cette méthode radicale de contraception encouragée par l'État depuis les années 60.
Il y a une vraie inquiétude sur globalement comment nourrir le monde. Mais la solution, elle se trouve dans le développement, bien entendu. La grande question, c'est la question du rythme auquel cela va se produire. Et c'est là où, effectivement, il y a évidemment des risques quant à la capacité d'un pays à nourrir sa population, ce qui renforce évidemment la nécessité de coopération internationale.
Il est probable que dans les années qui viennent, le moteur de cette croissance ne soit pas assez important pour empêcher des centaines, voire des millions de jeunes Indiens eh bien, de chercher ailleurs l'occasion de se développer. La Grande-Bretagne l'a compris, hein. Les États-Unis l'ont compris. La population qui, étrangère qui croit le plus aux États-Unis en ce moment, ce ne sont pas les Sud-Américains, hein, ce sont les Indiens.
En 2022, plus de 1,3 million de jeunes Indiens sont partis tenter leur chance à l'étranger. À 3h30 de New Delhi, image déroutante d'une Inde où la foule a laissé place au vide. Suresh est agriculteur. Depuis quelques années, il assiste à l'exode massif des jeunes habitants de son village qui ont tout quitté pour vivre le rêve américain.
Avant, nous pensions que c'était bien que nos enfants aillent travailler autre part. Mais maintenant, nous sommes vraiment tristes. Tous les jeunes hommes sont partis. Dans notre société, qui prendra soin de nous lorsque nous serons confrontés à des problèmes à cause de la vieillesse? Vers qui irons-nous quand il n'y aura plus d'enfants avec nous?
Nous avons peut-être aujourd'hui des visions un tout petit peu rapides, nous autres pays riches notamment, en disant si nous pouvons capter des diplômés, si nous pouvons capter des jeunes cerveaux de l'extérieur, il faut les faire venir. Oui, mais ça veut dire évidemment que dans le même temps, on est en train de dépouiller des pays qui sont des pays pauvres.
Les derniers jeunes qui demeurent dans la ville préparent en réalité leur départ.
La procédure, c'est que nous avons un agent à qui nous remettons notre passeport. Nous devons donner 550 euros à cet intermédiaire. Ensuite, ils nous emmèneront à la frontière mexicaine avec les États-Unis. On fait ça pour gagner plus d'argent. On gagne mieux notre vie ailleurs. Ici, nous gagnons entre 10 et 15 euros par jour. Mais là-bas, nous pourrons gagner entre 100 et 150 euros par jour. Il y a tellement d'avantages à partir à l'étranger.
Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les vidéos de ces jeunes Indiens partageant leur périple dans les jungles de l'Amazonie, franchissant en toute facilité la frontière entre le Mexique et les États-Unis ou aux portes de l'Europe. Sur le chemin, ils sont rejoints par des jeunes Africains, des jeunes venus de tous les continents, tous en quête d'une vie meilleure, très loin de leurs frontières. Cet exode, ce gâchis de la jeunesse, des jeunes militants indiens et africains ne l'acceptent plus. Leurs visages sont peu connus en France et en Europe, et pourtant, ces jeunes femmes font entendre leur voix dans les sommets internationaux. Vanessa Nakate, ougandaise de 27 ans. Ou Disha Ravi, écologiste indienne de 24 ans.
The world is desperate for a political breakthrough.
Nous les avons retrouvées à la COP28, réunies à Dubaï.
Hello Vanessa Nakate, hello Disha.
Bonjour Vanessa Nakate, bonjour Disha Ravi. Je suis très heureuse de vous avoir toutes les deux à mes côtés aujourd'hui. Alors vous êtes les voix de la jeunesse qui milite contre le réchauffement climatique. L'une des conséquences de ce désastre, c'est l'exode des populations venues d'Afrique, d'Inde vers d'autres pays du monde. Quel rôle les jeunes Africains et les jeunes Indiens peuvent-ils jouer pour changer cela?
Pour être honnête, nous les jeunes, nous avons fait notre boulot. Le monde nous met toujours plus de responsabilités sur les épaules, nous demande de faire plus pour agir contre le réchauffement climatique. Nous organisons des sittings, des grèves, nous organisons des ateliers. Nous avons fait tout ce qui était possible pour exhorter les leaders mondiaux à suivre la science et à protéger les gens des effets néfastes. Maintenant, il est temps que ces dirigeants fassent leur travail. Il est temps qu'ils fassent de nos vies une priorité.
Question d'une femme à deux autres femmes. Comment ressentez-vous ces discours qui veulent réduire les naissances, qui militent même pour des politiques de stérilisation? Quelle est votre position là-dessus?
Je pense que c'est injuste. Réduire les populations qui ne sont pas responsables de cette pollution, c'est vraiment une vision raciste, souvent véhiculée par les Blancs. Si vous regardez le taux d'émission de CO2 par habitant pour un Indien, il est vraiment négligeable. Et souvent, ceux qui migrent, ce ne sont pas eux qui ont détruit la planète. Ils sont très loin d'avoir contribué aux émissions.
Nous avons vu qu'historiquement, les pays du Sud ont déjà fait face à d'immenses défis dans leur histoire. Au colonialisme, à l'esclavage et maintenant au réchauffement climatique et à l'immigration. Oui, c'est un immense défi pour nos communautés. Car si les leaders mondiaux ne trouvent pas les solutions à ces crises, toujours plus de gens perdront leur maison, leur source de revenus, et ils seront forcés de partir.
Merci vraiment à toutes les deux. Merci. L'Europe a-t-elle bien pris la mesure du défi planétaire qui s'annonce? De ces millions de jeunes prêts à prendre le chemin de l'exode.
On s'en va jamais d'où on est né par plaisir. On s'en va parce que la nécessité devient suraiguë.
On voit ces gens qui sont prêts à risquer leur vie pour un avenir meilleur. Ce qui montre l'état de détresse de ces populations-là.
La migration est un acte douloureux, tragique, on ne part pas aisément de son pays, donc on fait tout pour l'éviter. On ne part que dans des conditions extrêmes, s'il n'y a plus d'autres possibilités.
Depuis 10 ans, plus de 25 000 migrants sont morts ou portés disparus lors d'un naufrage en tentant de rejoindre l'Europe. Sur la frontière est du vieux continent, en Grèce, l'île de Lesbos est devenue un symbole de cette crise migratoire. Ici, les quelques 100 000 habitants de l'île ont vu passer plus de 600 000 réfugiés en 10 ans, venus de Syrie, d'Afghanistan ou du continent africain. À Lesbos, l'Union européenne n'a pas trouvé d'autre solution que de financer la construction de camps pour accueillir ces migrants en demande d'asile. C'est dans l'un de ces camps que le réfugié congolais Rudy Kimpioka a effectué ses premiers pas en Europe.
À flanc de colline, entouré par les oliviers, l'immense camp de Moria sur l'île de Lesbos.
Le camp de Moria, ouvert de 2013 à 2020, a été qualifié par des ONG de honte de l'Europe. Il a abrité jusqu'à 20 000 migrants dans des conditions de vie désastreuses.
Quand vous arrivez pour la première fois, on vous met ici. Et ici, il y avait une grande tente. C'était ici. Voilà. Et ma maison était ici, à l'intérieur. Comme j'avais dit, on était coincés à l'intérieur. Je vivais ici, dans la section A. Chambre numéro 2, chambre numéro 3 et chambre numéro 4. Et moi, je vivais ici. Voilà. This was my house. Pendant la nuit, tu vas voir les gens descendre, monter. Même moi, je faisais ça quand je suis trop stressé. Je monte, je descends, je monte, je descends. Tu vas voir, pendant la journée, il y a plein de gens. Ils descendent, ils montent juste pour faire quelque chose. Il y avait problème de bagarre. Ils se bagarraient avec des couteaux, avec les armes blanches. Voilà, c'était comme ça. Je restais 6 mois au camp de Moria. J'ai essayé de suicider une fois. Ça n'a pas marché et voilà. Après, on m'a fait sortir dans le camp parce que tu ne peux pas résister au niveau du camp. Tu vois qu'il y a des mauvaises choses chaque fois. Donc tu vois, tu regardes les gens comme les gens vivaient ici. Tu me dis non, ça c'est inhumain.
En septembre 2020, le camp de Moria a finalement été ravagé par un incendie, laissant à l'époque plus de 10 000 migrants à la rue.
Moria n'existe plus, mais ça existe dans nos mémoires. Personne ne peut oublier Moria. Quelqu'un qui a passé ici, Moria, ça existe.
À ce jour, sa demande d'asile est toujours en attente de traitement. En attendant, Rudy a fondé à Lesbos une association de musique.
Il y a une contradiction fondamentale en Europe entre ces valeurs humanistes et la nécessité de la fermeté, parce qu'une immigration non contrôlée a aussi pour effet de favoriser la montée des populismes. Donc l'Europe est obligée de mettre un frein à ces valeurs purement d'ouverture et d'humanisme. Donc c'est une contradiction qui n'est pas facile à tenir.
On est face justement à un continent qui ne sait pas gérer, qui n'arrive pas à gérer ses frontières externes et qui va alors bricoler pour tenter de réguler. C'est la preuve aussi d'un échec.
Image terrifiante de ces réfugiés épuisés, terrorisés, qui, à peine débarqués à Lesbos, se dissimulent dans la forêt. Car les autorités grecques, visiblement dépassées, sont désormais accusées régulièrement de remettre à l'eau des réfugiés pour les refouler vers la Turquie. Ces images, publiées par le New York Times, ont mis en évidence ce que les experts appellent un pushback. La Grèce, elle, continue de nier les faits.
Quelle vanité que de penser qu'un État, un gouvernement aurait les moyens de contrôler les migrations internationales. On sait que ces migrations sont déterminées largement par des facteurs exogènes, essentiellement par des inégalités de droits et de libertés, des inégalités de revenus, de développement, des inégalités d'accès aux soins, à certains services. La réalité, c'est que ces migrations vont se produire et se produisent quoi qu'il arrive, et que le degré d'ouverture, de fermeture d'une frontière, on va souvent les rendre plus dangereux, plus risqués, mais jamais les flux migratoires ne vont se tarir parce qu'une frontière est fermée. De la même manière, les gens ne vont pas décider de quitter tout d'un coup leur pays parce qu'une frontière est ouverte.
Y a-t-il un accord pour sauver l'Union européenne de la crise migratoire? À entendre les 28 réunis hier en sommet à Bruxelles, il ne reste plus qu'à finaliser les détails d'un accord avec la Turquie pour empêcher les candidats à l'immigration de franchir les portes de l'espace Schengen.
La Turquie est payée depuis 8 ans par l'Union européenne pour empêcher les réfugiés de passer en Grèce. Entre 2016 et 2021, Bruxelles a déboursé pour cela 6 milliards d'euros.
Angela Merkel, c'est elle qui a engagé cet accord, blâmé et critiqué largement par beaucoup d'autres comme une sorte de contrat totalement cynique avec quelqu'un de peu recommandable comme Erdogan. Et en même temps, tous les Européens se sont dit que c'était quand même une solution bien utile parce que personne n'était en mesure de gérer l'immensité, l'énormité de ces flux migratoires.
Les gardes-côtes turcs ont accepté de nous embarquer dans l'une de ces patrouilles. Mais ils ont interdiction de répondre à nos questions devant nos caméras. Ce jour-là, un bateau de réfugiés est repéré au large de l'île grecque de Samos, dans les eaux turques. À bord, 36 personnes, des Syriens, des Palestiniens. Ils vont être reconduits en Turquie et placés en rétention. Devant nous, les gardes-côtes turcs affichent leur bienveillance. Mais les autorités turques sont accusées de mauvais traitements par des ONG et les migrants eux-mêmes. L'Union européenne ne trouve pourtant rien à redire, car elle connaît la capacité du président Recep Tayyip Erdogan à jouer du sort des réfugiés comme d'une arme diplomatique.
Kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler, ama bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabiliriz. Ve biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek.
Erdogan en a tiré profit, c'est un levier de pouvoir. Le lâcher de migrants, c'est un truc, quelque chose d'absolument épouvantable et cynique. Et il a menacé plusieurs fois l'Union européenne de le faire pour en tirer des avantages.
C'est une menace qu'ils agitent, en tout cas. La Turquie, mais pas que, hein, de manière générale. Les pays de départ savent quel est l'enjeu aussi pour les pays, on va dire pays du Sud, pays du Nord. Et ils peuvent en effet en jouer.
Une arrivée qui fait la une des chaînes de télévision italiennes. Sur ces bateaux, des milliers de migrants prêts à débarquer à Lampedusa.
Lampedusa, c'est l'autre porte d'entrée vers l'Europe. Elle est sous les feux de l'actualité quand des centaines, parfois des milliers de réfugiés débarquent régulièrement depuis la Libye et la Tunisie. Comme en septembre dernier, en seulement 3 jours, près de 10 000 migrants seront enregistrés à leur arrivée. Un mois après cette énième crise, l'indifférence a repris le dessus, alors même que les débarquements se poursuivent sur le port de Lille. Depuis 20 ans, le procureur en chef, Salvatore Vella, enquête sur les naufrages survenus près de Lille et sur les réseaux de passeurs.
Ce sont des bateaux qui partent du nord de la Tunisie et ceux-là sont principalement utilisés en partance de la Libye. Généralement, sur leur toit, les équipages militaires qui les secourent écrivent la date à laquelle le bateau a été secouru.
Ce qu'il a cru être un début de phénomène passager épisodique est devenu, au fil des années, une autoroute de l'exode.
Cette année, le nombre de migrants a augmenté par rapport à l'année dernière. Il a même doublé. Maintenant, ce sont des familles qui arrivent, des femmes, des enfants et même des mineurs non accompagnés. Il arrive tout type de profil. Et le niveau d'éducation des migrants n'est pas basique, car il arrive aussi des personnes qui ont fait des études supérieures. L'immigration ne peut plus être considérée comme une urgence. Une urgence, c'est un tremblement de terre, une inondation, quelque chose qui arrive d'un coup. Là, ce n'est certainement pas une urgence. Nous devons désormais parler de flux migratoires.
L'Italie a plusieurs fois appelé à la solidarité ses partenaires européens et continue régulièrement de le faire sans succès.
Servono soluzioni serie, complesse, durature. E serve anche che lavoriamo tutti nella stessa direzione, perché non avrebbe molto senso vedere una parte d'Europa che si impegna e lavora per trovare quelle soluzioni e un'altra parte di Europa che per ragioni ideologiche lavora per smontare.
Là on voit que une dirigeante comme l'italienne Giorgia Meloni se trouve en porte-à-faux avec ses homologues politiques d'extrême droite, que sont par exemple le Hongrois Viktor Orban ou comme l'était le Premier ministre polonais avant les dernières élections. Elle serait demandeuse d'un partage des responsabilités, de quotas pour recueillir les migrants. Et eux, ils disent « mais nous, on ne veut pas en entendre parler », etc. Et ce sont eux qui s'opposent à ces mécanismes de solidarité. Si bien que la solution pour l'Europe, ce sera non pas de s'entendre à moins d'une grande révolution à laquelle je ne crois pas beaucoup. En revanche, il faudra que certains États s'entendent entre eux pour faire preuve de solidarité.
Mais là encore, l'Union européenne a préféré signer un partenariat controversé. Alors même que le gouvernement du Premier ministre libyen fait face à une guerre civile dans son pays, les leaders européens désignent ce même gouvernement comme un partenaire fiable, capable de stopper et gérer le flux de migrants en provenance de Libye. Bruxelles s'engage à former, financer et équiper les gardes-côtes libyens. Mais très vite, des ONG internationales vont mettre à jour les comportements des hommes de Tripoli, très éloignés des ambitions humanitaires affichées au départ. Ces agissements sont régulièrement documentés par les équipes de l'ONG allemande Sea-Watch, qui survole à ses frais plusieurs fois par semaine la Méditerranée entre la Libye et Lampedusa.
Depuis quelques années, on est dans une situation où l'on observe de plus en plus des violations des droits humains. Bien sûr, on essaie d'empêcher ces violations quand on les observe, mais si on ne peut pas, on documente les agissements.
L'équipe aperçoit un premier bateau à la dérive.
Ok, descente à 500 pieds.
Ça ressemble à un bateau en bois. Ah non, 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 c'est un canot pneumatique. Il doit y avoir au moins 80 personnes dessus.
Mayday, mayday, appel de détresse. Ici Seabird 2. On voit un canot pneumatique bleu avec une centaine de personnes dessus. Le bateau en détresse est surchargé.
L'avion alerte alors une autre ONG espagnole appelée Open Arms, qui se trouve à proximité.
La situation actuelle, c'est que les deux bateaux d'Open Arms ont rejoint le bateau en détresse. Et ils vont leur donner des gilets de sauvetage. Le bateau des gardes-côtes libyens arrive. Pour le moment, ils n'interviennent pas. Ils gardent leur distance.
Ok, merci pour l'information. On est sur place et on commence l'intervention.
Ce jour-là, tout se passe sans heurts. Mais l'ONG reste en alerte. La veille, ces mêmes Libyens ont fait chavirer un bateau de réfugiés.
Ce que vous voyez là, c'est une attaque violente des gardes-côtes libyens qui s'est déroulée le 29 octobre 2023. Ils ont pris le bateau en chasse pendant une vingtaine de minutes et ils ont essayé de faire chavirer le bateau plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se dégonfle, ce qui constitue une attaque très dangereuse contre ces personnes. Actuellement, on n'a jamais atteint un tel nombre de décès depuis 2017. On a répertorié plus de 2400 personnes disparues ou qui ont perdu la vie en Méditerranée centrale. C'est un chiffre noir. Nous avons besoin d'un programme de sauvetage financé par l'Europe, parce que c'est ridicule que ce soit les ONG qui fassent ce travail. C'est le travail des États. Nous ne devrions pas avoir à faire ça. Mais nous le faisons car il n'y a personne d'autre pour le faire.
Bonjour Eva Johnson.
Bonjour.
Vous êtes la commissaire européenne chargée du dossier de l'immigration au sein de l'Union européenne. Eva Johnson, peut-on dire que chacun de ces décès enregistrés en Méditerranée, c'est l'illustration d'un échec de l'Europe ?
Je pense que tous ces morts en Méditerranée, c'est une tragédie. Nous parlons d'humains, des hommes, des femmes, des enfants. Mais ceux qui doivent être condamnés, ce sont les passeurs. On ne doit jamais oublier qu'il s'agit d'organisations criminelles très puissantes qui supervisent le trafic et profitent de ces personnes désespérées. C'est pour cela qu'il est essentiel de combattre ces trafiquants, tout en investissant en même temps dans l'immigration légale, dans tous les moyens légaux d'accéder à l'Europe.
L'Union européenne a signé des accords avec les pays de départ, la Turquie, la Libye, la Tunisie, en échange de financement pour l'entraînement et l'achat d'équipements pour les gardes-côtes. Mais les gardes-côtes de ces mêmes pays sont dénoncés pour leur comportement par des ONG. Même les gardes-côtes grecs sont accusés de repousser illégalement et discrètement des migrants. C'est ce qu'on appelle les pushbacks. Ça, vous le savez.
Ces dossiers sont actuellement en cours d'investigation. J'étais récemment en Grèce et j'ai pu entendre directement les témoignages de ces ONG. Ce qu'elles avaient constaté, ces nouvelles pratiques des gardes-côtes grecs. Nous discutons aussi avec les gardes-côtes turcs.
Mais vous, qu'avez-vous dit personnellement aux autorités grecques?
Je leur ai dit que c'était interdit de repousser les migrants. Et je suis allée le dire personnellement il y a 2 semaines au Premier ministre grec. Il m'a assuré qu'une enquête était en cours et que les résultats seraient bientôt publiés.
Quand on voit qu'un continent comme l'Afrique va bientôt voir sa population exploser, le sentiment que nous avons, c'est que l'Europe n'est pas vraiment préparée pour faire face à une énième tragédie en Méditerranée.
L'Europe apprend à voir les choses différemment. Nous sommes dans une situation où notre population est de plus en plus âgée. Nous manquons de plus en plus de bras dans le monde du travail. Si l'on regarde les chiffres, la main-d'œuvre européenne perd chaque année 1 million d'individus. Cela signifie que nous allons manquer de travailleurs dans des régions spécifiques du continent. Dans le même temps, vous avez une population jeune sur le continent africain. Et il est temps de faire de cette situation un système gagnant-gagnant. C'est pour cela qu'il faut à la fois stopper l'immigration illégale, où des gens risquent leur vie, comme je vous l'expliquais au départ, et investir dans les processus légaux. On a besoin de cela. En Europe aujourd'hui, vous avez déjà chaque année 3 à 4 millions de personnes qui entrent légalement sur notre territoire. Et il va sûrement falloir l'augmenter. Je pense que c'est une bonne chose. On doit organiser cela avec rigueur et en toute sécurité. Et cela profitera à la fois aux individus et aux pays européens.
Donc, face au vieillissement et à la chute des naissances, vous nous dites que la solution pour le marché de l'emploi, c'est l'immigration.
Ce n'est pas la seule solution. Il y a plein d'autres choses à faire en termes d'orientation et de formation des travailleurs. Il faut que les jeunes puissent entrer plus vite sur le marché du travail. Nous avons besoin que les femmes travaillent à plein temps. On doit lutter contre les discriminations sur le marché du travail. Plein de choses doivent être lancées sur le marché du travail européen. Mais cela ne sera pas suffisant pour combler les manques. On aura aussi besoin d'immigration.
Merci beaucoup, Eva Jensen. Merci.
Merci.
Officiellement, les populistes européens ne veulent pas entendre parler d'immigration. Ils ont en tête une autre recette, miracle contre le vieillissement. En ce mois de septembre 2023, dans le fief du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, tous les nationalistes sont au rendez-vous. L'invité d'honneur, c'est l'italienne Giorgia Meloni.
This issue is often instrumentally set against the one of migration, which it is claimed can give us the contribution in terms of welfare that our national societies should apparently resign themselves to no longer being able to offer. I do not agree with this narrative.
Faire des bébés, c'est l'obsession des nationalistes européens.
Les politiques natalistes, on le sait, c'est ça qui est fascinant. On a un siècle d'histoire, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais, d'une part parce que vous ne contraignez pas les femmes.
Vous avez plein d'expériences qui ont eu lieu, des incitations fiscales. Vous parlez effectivement de la Hongrie. La Hongrie, ça a marché 2-3 ans et c'est retombé derrière. Le taux de fécondité a rechuté derrière. Vous avez la Russie qui a essayé aussi de faire ça pendant un moment. Et donc, en fait, personne n'a la clé de ça.
Même la plus grande dictature du monde se casse les dents sur ce défi. Depuis 2016, la Chine a mis fin à la politique de l'enfant unique et incite les couples à avoir 2 ou 3 enfants pour faire face au vieillissement du pays. Liu a 13 ans. Comme la plupart de ses amis, il est fils unique. Et pour lui, ses parents sont prêts à tout pour son bonheur. Ce samedi, c'est son cours de natation privé sous le regard attentif de sa maman.
Il a des cours de guitare, il a des cours de basket, il a des cours de natation en dehors de l'école. Ces trois cours extrascolaires représentent environ 380 à 520 euros par mois. Et avant, il allait dans une école primaire privée, les frais de scolarité annuels étaient de 13 000 euros.
Pour lui, ils sont prêts à tout, sauf à lui donner un frère ou une sœur.
Le fait d'avoir deux enfants aura un certain impact sur ma carrière, car il faut au moins un an et demi, voire plus, pour s'occuper d'un enfant, avec toute la grossesse, la naissance, etc.
Sur la question de la population chinoise, ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que la population a au fond intégré elle-même cette politique de l'enfant unique qui lui a été imposée pendant très longues années. Le taux de fertilité en Chine, aujourd'hui, il est de 1,1 enfant par femme. C'est un des taux de fertilité les plus bas au monde.
La Chine, ce qui est intéressant, c'est qu'eux montrent que c'est très facile de faire baisser le taux de fécondité. Il y a deux manières de le faire. La Chine l'a fait de manière très autoritaire. Et d'autres pays qui ont réussi à le faire baisser rapidement, c'est l'éducation des femmes. C'est-à-dire que vous offrez la scolarité aux femmes, vous les éduquez, vous leur donnez l'émancipation et la liberté de connaître leur corps, de faire carrière, de choisir leur vie, plutôt que d'être réduite à un rôle de procréatrice. Vous les émancipez, vous leur donnez ce choix-là, le taux de fécondité baisse automatiquement.
Trois générations cohabitent dans l'appartement familial. Le père de Ying, 74 ans, est issu d'une des dernières familles nombreuses chinoises. Il a quatre frères et sœurs, des personnes âgées désormais. Mais il n'encourage pas pour autant sa fille à avoir plusieurs enfants.
Pour ma part, je pense qu'il est plus prudent de les laisser faire leur propre choix. Ils travaillent, ils sont très occupés et la charge de la famille est très lourde. Ils s'occupent des personnes âgées et la santé des anciens n'est plus comme avant. Donc maintenant, ils doivent prendre soin de leurs enfants et aussi des personnes âgées.
C'est la première fois dans l'histoire de la Chine qu'un tel nombre de personnes deviennent propriétaires, s'enrichissent. Et aussi la première fois dans l'histoire de la Chine que ce calcul est fait. Non, nous n'allons pas diviser le capital que nous avons mis une vie entière à amasser. Nous allons en profiter et nous allons le transmettre à notre enfant unique. D'ailleurs, on connaît bien ça, nous aussi, en Europe. C'est exactement le calcul des boomers en France, dans toute l'Europe.
Face à l'urgence de la situation, la Chine envisage même de décaler le départ à la retraite de 5 ans. Une vraie révolution dans le régime communiste.
De regarder la démographie dans le blanc des yeux, de la regarder en face, c'est, je pense, quelque chose d'un prérequis politique. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va être confronté à ces problèmes-là et il faudra y répondre d'une manière ou d'une autre. Quand vous demandez aux entreprises quel est votre premier problème, 61% des entreprises vous disent que c'est de remplir les postes vacants pour lesquels ils n'arrivent pas à trouver de la main-d'œuvre.
Il n'y a plus de jeunes Français. Il n'y a plus de jeunes Français. Donc il faut absolument que des jeunes viennent d'ailleurs. Alors, c'est presque cynique ce que je vous dis.
Giorgia Meloni est l'exemple même d'un discours très anti-immigration quand vous êtes dans l'opposition et qui, une fois au pouvoir, se rend compte qu'en fait, elle a besoin de l'immigration si elle veut que l'Italie continue d'être un pays qui tient son rang économique.
C'est l'une des cachotteries du gouvernement de Giorgia Meloni. Le marché de l'emploi italien repose en fait sur les travailleurs immigrés. Ils assurent même jusqu'à 9% du PIB national. Certains secteurs en sont devenus totalement dépendants. Dans la périphérie de Turin, l'usine de métallurgie Vibel tourne à plein régime. Claudio Risolo en est le directeur.
On devrait faire quelque chose pour le pliage, pour éviter qu'il ne s'abîme à l'intérieur.
Comme toutes les entreprises du secteur, Vibel fait face à des difficultés de recrutement.
Je reconnais que le problème démographique italien est malheureusement très lourd à porter. Nous sommes un vieux pays, on ne peut plus le nier. Et donc automatiquement, on doit parler de politique d'intégration, des politiques d'intégration positives.
L'intégration pour Claudio, c'est l'embauche de travailleurs étrangers. Dans l'usine, la dernière recrue s'appelle Sol. Originaire de Gambie, il a traversé l'Afrique avant d'être recruté pendant sa formation.
Lorsque nous sommes arrivés à Lampedusa, ils nous ont emmenés dans un camp. Un jour, ils nous ont répartis dans différentes régions de l'Italie. Et j'ai eu de la chance de venir ici, à Turin. J'ai décidé de rester, d'apprendre quelque chose et de continuer ma vie. Pour moi, tout ça, c'était écrit. Je devais passer par toutes ces épreuves pour avoir une meilleure vie.
Et on est très gentil avec lui.
Est-ce que maintenant, dans les régions qui sont les plus atteintes de vieillissement, on est plus à même d'accepter un recours à une main-d'œuvre immigrée? C'est pas évident. Là, on a des paradoxes au sein de la société française. C'est-à-dire que les mêmes sondages vous disent que 65% des Français considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France, mais les mêmes enquêtes nous disent à 70% que les Français considèrent que les étrangers en situation irrégulière qui travaillent, donc les fameux travailleurs sans papier, devraient pouvoir être régularisés.
Il y a un secteur en Italie où ce tabou est levé depuis longtemps, c'est l'agriculture. Dans cette coopérative, quasiment tous les saisonniers viennent de très loin.
Depuis combien de temps êtes-vous en Italie ?
Ça fait plus de 10 ans.
Et pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ?
Je suis venue pour ma famille. Mon mari, mon fils, ma fille, tout le monde est en Italie.
Il y a cette espèce de paradoxe qui traverse bon nombre de pays entre des emplois qui ne sont pas pourvus et des nationaux qui n'occupent pas ces emplois-là.
Toute une série de métiers considérés comme étant pénibles, peu valorisés, physiquement compliqués, sont aujourd'hui boudés par nos compatriotes. Et donc, il n'y a pas uniquement la question du vieillissement, il y a aussi cette question des choix des métiers qui fait que si on veut que ces secteurs continuent d'exister ici en France, à un moment, il faut faire appel à ce type de main-d'œuvre. Dans les abattoirs en Bretagne ou dans les usines agroalimentaires, il y a des très forts contingents de travailleurs étrangers, de toute nationalité. Regardez ce qui se passe dans le BTP, regardez ce qui se passe dans la restauration.
On va devoir accueillir les migrants comme l'Italie, comme l'Espagne, parce que contrairement, comme Viktor Orban, qui a signé il y a quelques semaines à peine un décret qui prévoit que les migrants soient en Hongrie régularisés en quelques semaines. Parce que lui aussi a un problème de dépopulation. Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Et ce qui est frappant avec Giorgia Meloni et cet accord de migration de travail qu'elle vient de négocier pour l'Italie, on parle de 500 000 migrants, c'est paradoxalement un gouvernement d'extrême droite en Europe qui va négocier le plus important accord de migration et qui va faire venir le plus grand nombre d'immigrés dans son pays.
L'ironie en Italie, c'est que ce sont les amis de Giorgia Meloni, le patronat italien, qui l'ont forcé à faire appel en nombre à l'immigration. En Italie, les besoins sont estimés à 3 millions de recrutements d'ici 3 ans.
Ces dernières années, nous avons, disons, fait appel aux étudiants et aux retraités. Mais aujourd'hui, ce secteur, ce type de personnes n'est plus disponible. Il est donc clair que nous sommes totalement dépendants de la main-d'œuvre étrangère.
Comme l'Europe est condamnée à être une terre d'immigration, dans ce cas, il faut que nous soyons une terre d'intégration en se donnant les moyens de le faire, comme le font le Canada, comme le font les États-Unis, comme le font Israël. Et là encore, cela a un coût. Dans les populations des pays respectifs, en France par exemple, qui sera prêt à payer davantage d'impôts pour une meilleure intégration des immigrés? Et pourtant, c'est la seule solution.
On parle ici des professions, on va dire, des métiers peu qualifiés. Mais on pourrait ouvrir aussi le chapitre des métiers, justement, de diplômés, tels que les médecins, par exemple.
Trouver un médecin, à tout prix. Même de petites communes françaises se lancent désormais dans cette course mondiale aux talents. À Rouffignac, en Dordogne, le maire Raymond Marty, désespéré par le manque de médecins, a fait appel pour 20 000 euros à un cabinet de chasseurs de têtes.
On a un espace kiné qui est disponible et un espace médecin.
Et vous recevez des candidats régulièrement ?
Ah, pas si régulièrement que ça, non. Non, non. On a eu 5 candidats, quelques-uns de France, mais assez souvent internationaux. On était volontaires pour recevoir n'importe quel candidat, quel que soit le pays, quelles que soient les origines. On voulait, dans tous les cas, un généraliste.
Le conseil municipal a finalement choisi le docteur Federico Viloslada, venu tout droit d'Andalousie.
Salut. Il nous avait été bien présenté et donc on pouvait croire qu'il était un bon candidat. On pouvait le croire. On y a cru. On a eu raison.
Combien de patients, docteur, vous avez aujourd'hui ?
Et plusieurs mois, 900. 900 patients. Et ça dépend de les jours, non ? Mais la dernière dimanche, c'est tous les jours, de 8h à minuit.
Est-ce que financièrement, vous êtes content aussi ?
Oui, je suis content. Je suis très content parce que et pour les formes de travail, pour les contrats, pour l'économie, ici, je suis bien.
Est-ce que c'est un système qu'on assume ou pas derrière ? Par exemple, la Tunisie forme environ 700 médecins par an. C'est le nombre de médecins qui quittent la Tunisie pour aller exercer ailleurs, pas seulement en France, bien sûr.
Il va y avoir une guerre des talents entre les nations européennes. Aujourd'hui, l'Allemagne l'accepte, offre des visas de travail, offre un emploi, apprend la langue aux immigrés pour les intégrer au plus vite sur le marché du travail. Ça va être quelque chose qui va aller très vite et qui va consister effectivement à aller chercher des ingénieurs, des informaticiens, mais même des aidants, parce que nous, on n'a pas, en tout cas, la capacité aujourd'hui démographique de répondre aux besoins.
L'immigration comme une solution au déclin démographique des campagnes françaises. Le 15 septembre 2022, face à tous les préfets de la République, le président en personne, Emmanuel Macron, lance officiellement le débat.
Les années qui viennent seront des années de transition démographique. J'ose à peine imaginer, plusieurs d'entre vous sont dans des territoires ruraux. Si nous savons offrir de l'hébergement, de l'urgence et de l'intégration dans ces régions à des femmes et des hommes qui arrivent sur notre sol, les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées avec une concentration de problèmes économiques et sociaux.
Ce discours va mettre le feu aux poudres dans les rangs de l'extrême droite et des groupuscules identitaires. Deux jours après son allocution au préfet, une petite ville bretonne de 2000 habitants va devenir, bien malgré elle, l'épicentre de cette bataille idéologique. Une bataille menée notamment par le parti Reconquête d'Éric Zemmour.
Dans quelle proportion ? Qui ? Est-ce que les Français sont d'accord ? Personne n'a posé la question.
Ils sont bien à Paris, mais pas ici, pas dans les petits bourgs.
Nous sommes également très inquiets à cause de l'arrivée de l'islam.
Leur cible, cet ancien collège abandonné, racheté par la mairie et choisi pour abriter le projet Horizon, destiné notamment à l'accueil de quelques réfugiés. Un an après la dernière manifestation, le journaliste Erwan Chartier-Lefloc est l'un des rares à oser parler de ces événements qui ont traumatisé la commune. Il dirige un hebdomadaire local qui a couvert toute la crise.
Et le parti de la France, on avait vraiment un kaléidoscope de toutes les ultra-droites. Ça fonctionne avec leur réseau et la fachosphère. Pour faire venir des gens, puisqu'on avait des plaques, vraiment pas mal de plaques de Vendée, même d'Occitanie, d'Anjou. Et puis, ouais, des gens assez organisés. Il y a les patriotes aussi, ça doit être ça.
Le journaliste et son équipe deviennent rapidement des cibles pour les militants de l'extrême droite.
Là, c'était quand même des mails particulièrement violents. Que j'ai amené aussi en gendarmerie pour porter plainte. Et donc, puisqu'on m'a fait l'honneur même de me créer des adresses internet, de faire niquer @chartiertuvascrever.fr. Les bâtards comme toi, on leur fout un manche à balai dans le cul, on va te crever de pourriture et te jeter dans la fosse avec tes négros que tu aimes tant, très bientôt salope. Et puis là, c'est un peu plus original, ils proposent de brûler mon domicile, comme les Israéliens le font avec les terroristes palestiniens. Bah, il s'adresse aussi aux gendarmes, aux enculés de gendarmes, une promesse, continuer à collaborer avec l'occupant africain et on se chargera de vous avec quelques rafales. Donc on est à 4 menaces, menaces de mort et menaces de destruction, ce qui n'est pas banal dans l'histoire d'un hebdo local. On ne sait pas s'il peut y avoir un passage à l'acte ou pas, quoi, parce que ce qui est grave avec ces gens-là, souvent, c'est sur Internet, ils excitent les gens et après, ils ne sont jamais responsables de la violence engendrée. Quoi.
À Kallak, c'est toute la ville qui sera victime d'une campagne de désinformation et de menaces de mort visant le maire, les élus et des bénévoles comme Sylvie et Denis. Le couple accompagne les réfugiés installés dans la ville par l'État depuis 2016.
On nous a accusés d'être des passeurs, de faire venir les Africains.
Mais moi, je peux comprendre, c'est déstabilisant, hein. Ça fait peur. Hein. On nous a dit que, par exemple, le secrétaire de la mairie a le décroché, qu'est-ce que ça va te faire quand un gros noir va venir te violer, enfin, des choses comme ça, à force d'entendre ça. Il faut être quand même solide. Bon, on se dit, ils vont peut-être venir, ouais, taguer la maison, mettre le feu à la maison. Ouais. Et on se disait, si on baisse les bras, ça va être, c'est fini après.
Et malheureusement, partout. Même les gens qui étaient favorables, etc., ils rasaient les murs. Hein, la zone grise. Hein, on ne sait pas si on est pour, si on est contre.
Et du coup, là, on a laissé le terrain libre pour la communication à l'extrême droite.
Après 4 mois d'enfer et le dépôt d'une douzaine de plaintes contre les auteurs de ces menaces, le conseil municipal vote finalement l'abandon du projet en janvier 2023.
Ils ont une stratégie, ils ont un objectif et ils sont très décidés. Donc c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Alors, dans les endroits où, comme ils ne sont pas si nombreux que ça, y a des endroits qui sont, ils peuvent pas s'emparer de tous les sujets. Mais bon, ils l'ont fait à Kallak et voilà le résultat.
À ce jour, le parti Reconquête d'Éric Zemmour et le Rassemblement national n'ont jamais condamné ces agissements.
Ça m'inquiète parce que on voit que cette espèce de voile pudique qu'on a jeté sur l'immigration nous revient d'une manière extrêmement violente, que l'intégration ne doit pas être un gros mot et que ce sont des préoccupations que l'on doit avoir de manière ferme, de manière directe.
Aujourd'hui, c'est l'extrême droite et les populistes qui posent les questions du débat. Et c'est la gauche et la droite républicaine qui se contentent d'apporter des réponses, qui d'ailleurs sont souvent des réponses maladroites. Tant que les démocrates n'auront pas repris la maîtrise du débat, nous nous contenterons de répondre aux questions qui sont posées par l'extrême droite avec des visées strictement électoralistes.
C'est-à-dire que la France est capable de se faire un mal de chien pour une idée. Elle est capable de se ruiner pour une idée. Et en l'occurrence, il n'y a rien de raisonnable dans la façon dont certains, à droite, comme à gauche d'ailleurs, du spectre politique, parle de la France de demain. Rien de raisonnable.
Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre
avec plaisir
à nos questions. Quand vous regardez les résultats des scrutins en Europe, quand vous regardez la progression des idées populistes, on est dans un moment où on a l'impression que la mode est à la fermeture, au repli.
Oui, mais si vous interrogez la plupart des gens compétents, de gauche comme de droite, le président du MEDEF ou le ministre de l'Industrie ou les syndicats, ils vous disent c'est pas vrai.
Ils vous disent on n'y arrive pas, il faut faire venir de la main-d'œuvre.
Il faut venir des gens, on en a besoin. Moi je dis qu'il n'est pas de l'intérêt de l'Europe que de fermer ses frontières. Attirer les talents, ça ne veut pas dire les diplômes, ça veut dire les talents. Pour moi, le talent, c'est la niaque. Et la niaque, on la trouve dans les gens qui réussissent les grands concours, parce qu'il faut de la niaque pour réussir les grands concours, mais on la trouve aussi dans les gens qui traversent toute l'Afrique pour venir chez nous, parce qu'il faut la niaque pour le faire. Tout le problème, c'est la capacité d'intégration. Donc, il faut à la fois des moyens d'intégrer et un flux d'intégration qui ne soit pas supérieur à notre capacité d'intégrer. Donc, il faut limiter notre réception à notre capacité d'intégrer.
En réalité, il y a les débats politiques quotidiens en Europe, en France et ailleurs. Mais les grandes tendances démographiques conduisent l'Europe, conduisent la France, conduisent ce vieux continent à prendre d'ores et déjà la décision et faire ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire à la fois accueillir et à la fois former.
Oui, vous savez, il y a deux malédictions. Ne pas faire assez d'enfants et faire trop d'enfants. C'est deux malédictions. Il y a des pays qui sont à 0,7 d'enfants par femme, et il y a des pays qui sont à 7 enfants par femme. Donc dans les deux cas, c'est un désastre. Le bon équilibre, c'est 2,1, 2,3, là que ça crée une stabilité. Alors globalement, ça serait mieux que l'humanité en 2100 ne soit pas à 12 milliards, même si contrairement à ce qu'on croit, on a tout à fait les moyens de nourrir 12 milliards d'habitants sur la planète. N'oublions pas que nous gaspillons 40% de la nourriture que nous produisons. 40%. Donc déjà, avec la nourriture qu'on produit aujourd'hui, si on savait mieux la gérer, on n'a qu'un problème pour nourrir la planète. Mais on serait quand même mieux si on avait des populations qui soient un peu moins nombreuses que nous sommes. Mais il faut gérer cette descente. Nous, Européens, on descend trop en ce moment.
On vieillit.
On descend trop. C'est-à-dire, on vieillit, ça veut dire qu'on ne fait pas assez d'enfants.
Bien sûr.
Tout le monde vieillit individuellement. Vous, moi, on vieillit.
Oui, sauf que là, c'est un continent qui vieillit.
C'est un continent dans lequel il n'y a pas assez de jeunes. Ouais. Et ne pas avoir assez de jeunes, ça veut dire ne pas avoir confiance dans l'avenir. Parce que si on fait des enfants, c'est qu'on pense que leur avenir a du sens. Donc déjà, si on ne fait pas de jeunes, ça signifie « je ne crois pas en l'avenir ». Un pays qui doit avoir de l'avenir, c'est un pays qui afficherait France 2040. C'est quoi la France en 2040? Personne ne dit ce que sera la France en 2040.
Parce qu'on n'en sait rien.
Tant que nos élections rythment notre destin, qu'on ne dit pas « voilà ce que doit être l'Europe en 2040 », on sera...
Mais peut-être, Catalyse, c'est parce que ça ne nous intéresse pas collectivement, la France 2040. Pourquoi je vous pose cette question? L'électorat vieillit. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à se projeter pour notre jeunesse?
Nous avons, et c'est très complexe à comprendre, nous avons intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. C'est notre intérêt égoïste. C'est ce que j'appelle l'altruisme rationnel. Nous devons nous considérer comme les grands-pères de la planète. Tous. Nous avons intérêt à ce que les autres Français soient heureux parce que leur bonheur, ça fait notre propre stabilité et notre harmonie sociale. Donc, nous avons intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés.
Merci beaucoup, Jacques Attali. Merci.
Une population qui vieillit, c'est aussi un électorat qui vieillit. C'est-à-dire que les plus de 50 ans sont trois fois plus nombreux dans l'électorat que les moins de 30 ans. Donc concrètement, pour un homme politique, c'est trois fois plus rentable d'aller parler à cet électorat-là qu'à un électorat de moins de 30 ans.
Les vieux possèdent le pouvoir économique. C'est eux qui possèdent le capital, c'est donc eux qui ont le pouvoir.
Et donc ce vieillissement-là a tendance à raccourcir l'horizon politique et donc faire en sorte que le long terme est peut-être un petit peu moins valorisé dans la bouche et dans la décision des politiques que si c'était une population jeune pour laquelle il faudrait préparer le pays.
Et puis aussi et surtout, ces seniors, ils votent. Ils votent davantage que la moyenne des Français. Et donc ce poids démographique et politique et économique conditionne toute une partie des choix profonds de la nation.
Tout ce qui porte le débat aujourd'hui sont des thèmes de vieux. L'insécurité, la jeunesse qui fait vraiment trop de bruit.
Dans la campagne présidentielle, on n'a pas parlé de logement, alors que c'est quand même le problème numéro un des jeunes aujourd'hui. Ça l'est beaucoup moins quand vous avez 50 ans et que vous êtes déjà à trois quarts aujourd'hui en France propriétaire, voire multipropriétaire.
Vous avez toute une partie du débat national qui est en fait portée par des gens qui votent et qui sont clairement conservateurs.
Quelqu'un disait, on fait la politique de sa géographie. On pourrait dire aussi, on fait la politique de sa démographie.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.